Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Cela fait bien des mois maintenant que nous étudions la première lettre de Paul à l'église de Thessalonique. Nous sommes au chapitre 5. Je voudrais vous inviter à chercher le chapitre 5 pour regarder de nouveau les trois premiers versets de ce chapitre. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 3. Ceux d'entre vous qui étaient présents dimanche soir dernier se souviendront que nous avons passé du temps dans le magnifique chapitre 24 des Actes. Une discussion a eu lieu entre l'apôtre Paul et le gouverneur du nom de Félix. Sa femme est à ses côtés. Elle s'appelle Drusille. L'apôtre Paul vient devant le gouverneur et sa femme dans le but de leur présenter le chemin de la vérité, en Jésus-Christ, ou l'Évangile. Et en s'adressant à eux, il est clairement dit, au verset 25 d'Actes 24, qu'il a discuté de trois choses avec eux, de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement. Voici que l'apôtre Paul confrontait un païen. Voici que l'apôtre Paul confrontait l'homme qui était son geôlier, qui avait en réalité autorité sur sa vie. Voici que l'apôtre Paul confrontait un homme qu'il avait un grand désir d'amener à la connaissance de Christ. Et de quoi parlait-il? Il parlait de justice. Qu'est-ce que cela signifiait? Il disait à Félix et à Drusille que Dieu avait des règles justes, que Dieu était un Dieu de justice et un Dieu saint, qui ne pouvait tolérer aucun péché. La justice de Dieu, c'est tout cela. Il leur disait que Dieu réclamait une perfection dont le péché était absent. Tout comme Jésus disait, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Ensuite, il leur a parlé de maîtrise de soi. C'est-à-dire non seulement Dieu est parfait et exige la perfection, mais encore l'homme doit également se plier à cette norme, et ce faisant, il doit pratiquer la maîtrise de soi. Ensuite, il a parlé de jugement. Que voulait-il dire par là? Que l'homme ne peut pas arriver à cette norme, et qu'il est donc sous la condamnation. Dieu est juste, et il a des normes justes. L'homme doit se contrôler pour vivre à ce niveau. S'il échoue, il est condamné. Paul, dans son enseignement, parlait du péché. Paul parlait de jugement. Paul visait dans le mille, car il est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, que le Saint-Esprit viendra dans le monde pour convaincre l'homme de péché, de justice et de jugement. Ce sont les mêmes thèmes. Ainsi, l'apôtre Paul, tout à fait dans la ligne de l'œuvre du Saint-Esprit, donnait à cet homme un message sur le jugement. Je crois que tout prophète fidèle, tout apôtre fidèle, et tout prédicateur et enseignant fidèle prêchera sur le jugement. Bien que l'apôtre Paul ne soit resté que quelques semaines avec les Thessaloniciens, pour ensuite devoir partir, et qu'il écrive cette lettre quelques mois plus tard, au cours des quelques semaines où il a été là, et où il a été utilisé par Dieu pour donner naissance à l'Église, il les a enseignés à propos de ces mêmes sujets. Il a dû leur apporter le même genre de message au sujet de Dieu, du vrai Dieu, qui avait des normes de justice, des normes selon lesquelles tout homme était appelé à vivre, et que, s'il ne les observait pas, il serait jugé. Et puis, la suite de l'histoire est que Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de notre échec, puisque nous n'arrivons pas à observer les normes, pour nous offrir le pardon et pour nous vêtir de sa propre justice. Donc, ils ont dû être au courant de la colère. Certainement que oui. Revenez au chapitre 1. Et au verset 10 un instant, quand Paul leur écrit et les décrit, il dit que vous êtes en réalité une église de la deuxième venue. Verset 10 du chapitre 1, vous qui attendez du ciel son Fils qui l'a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Il ne décrit pas ce que c'est, parce que clairement, il le savait déjà. Leur donner des informations à propos de la colère à venir faisait partie de son ministère auprès d'eux. Au chapitre 2 et au verset 16, il fait de nouveau remarquer, à la fin du verset, mais la colère a fini par les atteindre. Et cette colère ici n'est pas expliquée, parce qu'il leur en avait sans doute déjà parlé. Au chapitre 4, verset 6, à nouveau, il fait référence au fait que le Seigneur fait justice. Le Seigneur apportera la vengeance. Et dans la seconde épître, il leur écrit un peu plus tard, regardez au chapitre 1 de 2 Thessaloniciens. C'est aussi construit sur une connaissance précédente qu'ils avaient de la colère de Dieu. Après une salutation au début et des paroles de reconnaissance, au verset 3 et 4, pour leur progrès spirituel, il poursuit au verset 5 en parlant du juste jugement de Dieu. Puis au verset 6, il dit que Dieu rendra la souffrance à ceux qui font souffrir son Église. Ensuite, au verset 7, il dit que le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et ceux-là paieront la peine d'une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc, dans ces deux lettres, se trouve un certain nombre de références au jugement qui vient, des références qui complétaient ce que Paul leur avait déjà enseigné dans une présentation de l'Évangile. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 5, en parlant ici du jour du Seigneur, il dit « Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous ?» Dans toute présentation de l'Évangile, il est obligatoire d'introduire une discussion sur le jugement. Paul enseignait sur le péché. Paul enseignait sur le jugement. Paul avait déjà donné quelques éléments d'information aux Thessaloniciens quand il était à Thessalonique pour fonder l'Église. Il a dû leur parler du jour du Seigneur dans une certaine mesure, puisque dans la seconde lettre, comme je l'ai lu au chapitre 2, verset 5, il dit « Quand j'étais avec vous, je vous ai parlé de ces choses. » Il a dû leur parler du jour de la fureur, du jour de la colère, du jour de la vengeance, du jour du jugement, où Dieu détruit les méchants et les jette dans l'enfer éternel. Le jugement faisait partie de son message. Et c'est de ce jugement qu'il parle ici au chapitre 5. Voyons les trois premiers versets. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Cette référence au jour du Seigneur au verset 2 est la clé du texte, tout entier, qui va jusqu'au verset 11. Les prophètes de l'Ancien Testament ont aussi parlé du jour du Seigneur, comme je l'ai souligné dans notre précédente étude. Ils l'appelaient le grand et terrible jour de l'Éternel. Amos, par exemple, est l'un des prophètes qui parle du jour de l'Éternel, avec d'autres comme Ésaïe, Ézéchiel, Sophonie et Malachie. Amos nous montre que le jour de l'Éternel sera obscurité et non lumière. Ce sera le jugement et non la miséricorde. Ce sera la colère et non la bénédiction. Il nous montre que le jour de l'Éternel apportera des perturbations de l'ordre physique, une catastrophe cosmique provoquée par Dieu en personne, puisqu'il contrôle le processus naturel. Amos nous dit que, sous la fureur du jugement divin, au jour de l'Éternel, toute la terre sera dévastée et deviendra comme une mer déchaînée, où elle se soulèvera ou s'abaissera comme le Nil qui déborde de ses berges sur des kilomètres, noyant et submergeant tout sur son passage. Amos nous dit que le soleil partira à midi, laissant le monde entier dans l'obscurité. Ensuite, Amos dit qu'un feu surnaturel viendra pour détruire la mer et la terre. La vue prophétique du jour du Seigneur est, en effet, effrayante. Effrayante. Et alors que chacun de ces prophètes de l'Ancien Testament avait les yeux sur un événement historique, dans un futur proche, dans lequel Dieu viendrait dans sa colère, et qui était un jour du Seigneur historique, il voyait aussi plus loin, un jour du Seigneur ultime et eschatologique, où Dieu détruira finalement tous les méchants du monde. Au chapitre 5, l'apôtre veut parler de ce jour-là. Vous direz, pourquoi ? Parce qu'il a des implications pour ses lecteurs. Et il a des implications pour vous. Ces implications se développent du verset 4 au verset 11. Nous y viendrons plus tard, mais pas aujourd'hui. Mais nous devons vivre à la lumière du jugement éternel de Dieu. Si nous comprenons la crainte du Seigneur, cela devrait mettre dans notre vie quelque chose qui n'y serait pas autrement, en ce qui touche notre motivation est notre responsabilité. Alors, il a un message à donner à ses croyants qui dit ce que c'est que vivre à la lumière du jugement destructeur, final et éternel, sur les impies, et il donne ce message dans ses 11 versets. Or, souvenez-vous, en terminant le chapitre 4, il a donné un merveilleux coup d'œil sur l'enlèvement. C'est un événement différent. L'enlèvement, c'est l'Église qui est emportée. Ce n'est pas quelque chose à redouter. C'est quelque chose qui encourage. En fait, le verset 18 du chapitre 4 dit « Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » L'enlèvement décrit le départ de l'Église, qui est emportée. C'est un événement bienheureux. C'est un événement merveilleux. C'est un événement plein d'espérance. C'est un événement joyeux. C'est le moment de notre glorification. C'est le moment de notre récompense. C'est le moment où nous devenons comme Jésus-Christ. C'est le moment où nous entrons dans sa présence merveilleuse, éternelle, dans la maison du Père, dans la demeure qu'il nous prépare depuis qu'il est parti. Mais de cet événement merveilleux et plein d'espérance, il passe à cet événement horrible, appelé le jour du Seigneur. Je vous ai dit il y a 2 semaines que le passage précédent sur l'enlèvement était là pour réconforter les chrétiens troublés. Celui-ci est là pour troubler les chrétiens confortables. Sa discussion de l'enlèvement n'étant pas nécessairement exhaustive, juste suffisante pour les réconforter. Et sa discussion ici du jour du Seigneur n'est pas exhaustive. Elle suffit à nous motiver. Dans les 2 cas, il y a un objectif pratique, applicable. Il a à l'esprit le but d'un comportement éthique, d'une part pour apporter du réconfort, de l'autre pour apporter une motivation à vivre saintement. Donc, en arrivant au chapitre 5, avec le jour du Seigneur, regardons de nouveau ces 3 premiers versets. Continuons où nous nous sommes arrêtés. Et souvenez-vous, il y a 3 facteurs qui sont clairs dans ces 1 versets. La venue du jour du Seigneur, le caractère du jour du Seigneur, et en quoi le jour du Seigneur est exhaustif. Il introduit le sujet au verset 1. Vous vous souvenez, nous l'avons vu dans notre dernier message. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Comme bien des gens depuis ce moment-là, et aujourd'hui également, ils étaient curieux de savoir quand Jésus allait revenir, quand aura lieu l'enlèvement, quand viendra le jour du Seigneur, quand tous ces événements du temps de la fin vont-ils avoir lieu. Il dit, vous n'avez pas besoin que l'on vous écrive à ce sujet. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de savoir. Ce n'est pas quelque chose que vous devez savoir. Vous savez ce qui est nécessaire. Vous savez que le Seigneur Jésus viendra dans une flamme de feu et qu'il apportera la colère sur les impies. Vous connaissez déjà cela. Vous n'avez pas besoin de savoir quand. Vous n'avez pas besoin de savoir les chronos et les kairos, les temps et les saisons. Quand cela aura lieu? À quelle période de l'histoire humaine? Vous n'avez pas besoin de savoir cela. La réponse de Paul, à propos, était exactement la même que celle de Jésus. Matthieu, acte 24, 36, acte 1, 7, il disait, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Cela ne vous appartient pas. » Il a même fait cette déclaration étonnante et stupéfiante que même le Fils de l'homme ne le sait pas, mais seulement Dieu le Père. Dieu nous a tenus dans l'ignorance à ce sujet. Pourquoi? Pour que chaque génération vive à la lumière de la réalité que cela pourrait se passer de son propre temps. Pour que chaque génération réalise que Jésus pourrait venir avec le jugement final au cours de sa vie. Or, le Seigneur nous a donné des informations sur l'enlèvement, l'a décrit, nous a dit ce qui arrivera. Les morts en Christ ressuscitent d'abord. Ceux qui sont vivants et qui restent les rencontreront dans les airs. Et ils iront tous au ciel pour demeurer dans la maison du Père, et pour être pour toujours avec le Seigneur. Nous comprenons qu'il y a une trompette et la voix d'un ange, mais nous ne connaissons pas l'heure. Nous en savons un petit peu sur l'événement, mais nous ne savons pas exactement quand il aura lieu. Il n'y a aucune discussion sur le temps, dans aucun des passages qui parlent de l'enlèvement. Il y a 3 passages explicites dans le Nouveau Testament qui traitent de l'enlèvement. Ils sont très clairs. Jean 14, 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4. Aucun d'eux ne dit quand. Nous ne savons pas du tout quand. Il y a de nombreux passages sur le jour du Seigneur, mais aucune date n'est donnée. Il n'y a ni jour spécifique ni heure, mais il y a quelques indications que le jour du Seigneur est proche. Et nous allons en parler dans un moment. Mais le moment spécifique n'est pas connu. de sorte que chacun vit dans l'expectative, chacun vit dans l'anticipation. Au moment où les signes qui précèdent le jour du Seigneur commencent à arriver, une personne sage et informée pourrait savoir que cela arrivera bientôt, mais ne pourrait pas connaître le jour ni l'heure. Mais quant à savoir quand ces signes préliminaires commenceront et quelle génération sera en vie pour en faire l'expérience, nous n'en savons rien, rien du tout, et quiconque fixe une date agit tout à fait indépendamment de Dieu, du Saint-Esprit et de l'Écriture. Il y a un élément dans l'enlèvement, comme dans le jour du Seigneur, que l'on doit reconnaître, et cet élément, c'est que c'est inattendu, afin que chacun vive dans l'anticipation, la responsabilité et l'expectative. Révisons maintenant la venue au verset 2. « En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comment savait-il ceci ?» Bien, Paul disait, « Je vous ai enseigné beaucoup de ces choses. » 2 Thessaloniciens 2.5. Il a aussi probablement répété que Jésus l'avait dit, que le jour du Seigneur viendrait comme un voleur dans la nuit. À propos, il emprunte la terminologie de notre Seigneur, qui avait lui-même dit que le jour du Seigneur viendrait comme un voleur. Paul ajoute la petite phrase « dans la nuit », parce que c'est habituellement à ce moment qu'il venait et qu'il vienne. Mais ce qu'il veut relever ici, c'est « voilà, vous savez déjà parce que je vous l'ai dit, et parce que Jésus a dit que le jour du Seigneur est comme un voleur. » Qu'est-ce que cela veut dire? Le voleur n'annonce pas sa venue. Vos familles vous disent quand ils viennent. Vous l'espérez. Vos amis disent qu'ils viennent. Vos ennemis ne vous le disent jamais. Le voleur ne s'annonce jamais. Sa venue est inattendue, et c'est la simple analogie que l'apôtre Paul veut revoir avec eux. Vous ne pouvez pas savoir quand. C'est inattendu. Avant, dans Matthieu, chapitre 24, le Seigneur indiquait cela de bien des manières. Il a dit, « Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. » Et plus loin dans ce même chapitre, il dit au verset 50, « Si le serviteur avait su quand le maître reviendrait, il aurait ordonné sa vie un peu différemment. Mais il y a l'inattendu. » Au chapitre 25, le verset 13 dit, « Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où votre maître reviendra. » Dans Luc 12, 39 et 40, le Seigneur dit la même chose. Donc Paul dit, « Voilà, en ce qui concerne le moment, et quand cela va se passer, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive à ce sujet, parce que Dieu ne vous a pas donné ces informations, et vous n'en avez pas besoin. Tout ce que vous devez savoir, vous le savez déjà, parce que vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, au moment où vous ne l'attendez pas. Les détails du moment ne sont pas donnés. Personne ne connaît le jour ou l'heure, pas même le Fils de l'homme, mais le Père seul, disait Jésus. Ainsi, comme pour l'enlèvement, nous pouvons être au courant de l'événement, mais nous ne pouvons pas savoir quand il aura lieu. Et quant au jour du Seigneur, nous pouvons le connaître, mais nous ne pouvons pas savoir quand il aura lieu. De telles informations ne sont pas données, parce que le Seigneur n'a pas choisi de les donner. Mais ceci nous donne une introduction à cette notion, au verset 2, du jour du Seigneur. C'est un terme technique. C'est une expression technique qui apparaît de nombreuses fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Que signifie-t-il? Le jugement de Dieu cataclysmique sur les méchants. Il se réfère au moment de l'apogée de la fureur de Dieu et de sa colère, dans un paroxysme de jugement final. Les prophètes en ont parlé. Les auteurs du Nouveau Testament en parlent. Et toujours, il est fait référence au libre cours laissé à la fureur de Dieu finale, qui se déverse sur les pécheurs de la terre. Et comme je l'ai dit, il y a eu un jour du Seigneur historique dans l'Ancien Testament, dont les auteurs ont parlé, qui n'était qu'un avant-goût de ce dernier jour du Seigneur eschatologique, qui viendrait à la toute fin des temps. Dans toute discussion sur le jour du Seigneur, il y a un sens de proximité, l'attente empressée, un élément de surprise. Comme je l'ai dit, c'est vrai de l'enlèvement, et c'est vrai du jour du Seigneur. Il sera subi, pas bienvenu, préjudiciable et inattendu. Est-ce une bonne chose de vivre sans cette information? Oui. 1 Jean 3 dit que celui qui a cette espérance en lui se purifie, en parlant en réalité de l'enlèvement. Si vous avez l'espérance que vous allez être avec Jésus-Christ, et que cela pourrait arriver à tout moment, que vous allez devenir comme lui, que vous allez le voir face à face, Cette sorte d'espérance devrait avoir un effet direct sur la pureté de votre vie personnelle, correct? C'est absolument vrai. C'est vrai de l'enlèvement. Et si, à propos du jour du Seigneur, vous vous rendez compte qu'il pourrait survenir sur toute génération, cela devrait vous rendre très inquiet pour la génération dans laquelle vous vivez, devant faire face à ce jugement éternel. Nous ne savons pas quand cette terreur va se déchaîner, mais nous sommes bien occupés à persuader les hommes, parce que nous savons qu'elle arrive. Il est certain que Paul percevait que l'enlèvement viendrait au cours de sa vie, suivi par le jour du Seigneur. Et puisqu'il n'était pas encore arrivé, les Thessaloniciens étaient en souci et voulaient savoir quand il arriverait. Paul dit qu'une telle information n'existe pas. Maintenant, laissez-moi continuer en vous donnant quelques notions dont vous avez besoin. Aucun des passages traitant de l'enlèvement ne donne de signes préliminaires, indiquant que l'enlèvement viendra bientôt. Jean 14, 1 Corinthiens 15, Thessaloniciens 4 sont les textes sur l'enlèvement du Nouveau Testament. Aucun ne donne de signes préliminaires. Aucun passage ne parle de précurseurs, d'événements préliminaires, rien de tel. En revanche, suivez ma pensée. Les passages qui parlent du jour du Seigneur parlent de précurseurs, d'événements préliminaires, de signes, de signaux, qui font qu'une personne devrait avoir une idée générale qui l'approche. Vous direz, alors quels sont ces événements préliminaires? Il n'y en a pas dans les passages sur l'enlèvement. De nombreux signes sont donnés dans les passages sur le jour du Seigneur. Laissez-moi vous en donner quelques échantillons. Dans Malachie 3.23, ne le cherchez pas, mais dans Malachie 3.23, Malachie dit, « Avant que le jour de l'Éternel puisse venir, un précurseur comme Élie doit venir d'abord. Comme Jean-Baptiste est venu, avant la venue de Christ, un précurseur. » Malachie 3.23 dit que le jour de l'Éternel ne peut pas avoir lieu avant que cette personne prophétique, du type d'Élie, cette sorte de Jean-Baptiste, ne vienne annoncer la venue du Messie. Donc Dieu enverra en fait un précurseur avant le jour du Seigneur pour annoncer sa venue, selon Malachie 3.23. Alors, si le précurseur n'est pas encore là pour faire cette annonce, le jour du Seigneur n'est pas encore proche. Deuxièmement, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul dit que le jour du Seigneur n'arrivera pas avant l'apostasie, qui est une rébellion planétaire contre Dieu, contre Christ et contre l'Écriture. Il y aura une rébellion contre Dieu d'abord, ensuite vient le jour du Seigneur. 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4 disent « Le jour du Seigneur ne viendra pas jusqu'à ce que l'homme de péché soit révélé, l'Antichrist. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, ce qui signifie qu'il va dans le temple de Jérusalem, le profane, ce qui est appelé l'abominable désolation. Puis il s'élève comme l'autorité, comme celui qui doit être adoré. Or, Daniel nous en parle, et Jésus le répète en Matthieu 24, en disant qu'au milieu d'une période de 7 années, appelée la tribulation, au milieu de cette 70e semaine, cette période de 7 ans, l'Antichrist s'élèvera, profanera le temple, s'établira comme Dieu dans le temple. Cela se passe au milieu de la période de 7 ans. Le jour du Seigneur aura lieu à la fin de cette tribulation, quelque part vers la fin de ces 3 ans et demi. Alors, quand l'abominable dévastation est commise par l'Antichrist à Jérusalem, vous saurez que le jour du Seigneur n'est pas bien loin. Ensuite, à un moment dans cette même période, la grande apostasie aura lieu, la rébellion contre Dieu, orchestrée sans doute et dirigée par l'Antichrist. Et ensuite apparaîtra un proclamateur, comme un Jean-Baptiste du type d'Élie, qui annoncera la venue du Seigneur. Et puis un autre événement débutera, comme indication que le jour du Seigneur est près d'arriver. Et c'est dans Joël 3.9, où il est dit, « Les nations vont commencer à se rassembler dans la vallée de la décision. Les nations du monde vont avancer vers la vallée de la décision. Et ce que nous connaissons comme l'ultime Armageddon aura finalement lieu quand les nations du monde commencent à avancer vers Megiddo, au Moyen-Orient. Nous n'avons pas besoin d'être très futés pour savoir que le monde entier se focalise sur le Moyen-Orient. Mais tout cela va avoir lieu dans les dernières 3 années et demie de la période de tribulation, juste avant le jour du Seigneur qui vient vers la fin de cette période. Donc, le jour du Seigneur ne peut pas arriver avant qu'un précurseur comme Élie n'arrive. qu'une grande apostasie mondiale contre Dieu ait lieu, que l'Antéchrist profane le temple et s'élève lui-même, que les nations commencent à migrer vers la vallée de décision, comme elle est appelée, lorsque Dieu va décider ce qu'il va faire d'elle. Ensuite, immédiatement après, nous ne savons pas si c'est une affaire d'heure, de jour ou même de semaine, avant que le jour du Seigneur arrive. Écoutez ce qu'il y aura d'autre. Le soleil se changera en ténèbres, Joël 3:4, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Ainsi, juste avant que le jour du Seigneur vienne, le soleil et la lune ne donnent plus leur lumière. Joël 4:15 dit ceci, « Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles perdent leur éclat. Les étoiles s'éteignent. » Ésaïe 13:10 le décrit ainsi, « En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus briller sa lumière. » Matthieu 24-29 dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. » Marc 13-24 « Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière. » Luc 21-25 « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Comment la mer s'est-elle trouvée impliquée? Éteignez le soleil, et vous éteignez la lune. Éteignez la lune, et vous emportez les marées de la terre, dans un chaos total. » Ainsi vous avez ces précurseurs, ces événements, avant que le jour du Seigneur frappe. C'est incroyable, absolument incompréhensible. Mais le fait est que la population du monde, à ce moment-là, va avoir une réaction inexplicable en apparence. Regardez au verset 3, une réponse inexplicable. « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Arrêtez-vous là. Vous direz « Quoi ?» Ils disent quoi ? Ils disent « paix et sécurité ». Vous direz « Mais attendez, la Bible dit que vous ne pouvez pas savoir le jour ou l'heure. » C'est vrai, mais on peut connaître le cadre général de l'époque. Oui, pourquoi ? Parce que l'abominable désolation a eu lieu, parce que quelqu'un annonce la venue de Christ, à cause d'une apostasie à l'échelle mondiale, à cause des nations qui vont dans la vallée de la décision, et certainement parce que tout devient obscur. Mais néanmoins, et notez bien, même avant le milieu des 7 ans, il y aura d'autres choses pour indiquer la fin, et nous les verrons la prochaine fois. Il y aura d'autres signes listés dans les 5 premiers sceaux d'Apocalypse, qui montreront que nous avançons vers la fin. Malgré cela, malgré l'Antichrist, malgré tous ces préliminaires, malgré tout cela, la réponse des gens est paix et sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ira bien. Nous allons vers une période de paix. Nous nous approchons d'un moment de sécurité. Vous direz, c'est absolument risible. C'est tout à fait ridicule. Qui au monde répondrait par cette sorte de réaction? C'est assez simple. Quand vous y réfléchissez, ils sont convaincus par un groupe particulier. Un groupe spécial de gens travaille vraiment dur en vue de les convaincre que la paix et la sécurité est devant eux. Lancez un pari et imaginez qui ce groupe représente. Ce ne serait pas Dieu, n'est-ce pas? Ce doit être l'ennemi. Paix et sécurité. Paix et sécurité. Tout le monde ira bien. Nous approchons d'une période merveilleuse. Tout cela sera fini. C'est le début. Je peux l'entendre maintenant. C'est le début de l'âge nouveau. L'ancien se désagrège. Il se désintègre. Et tous les chrétiens qui ont été enlevés étaient le problème. Nous nous sommes débarrassés d'eux, et tout va être réorganisé. Et nous sommes à l'aube d'un âge nouveau. Vous direz, mais qui va prêcher ça? Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour répondre à cette question. Laissez-moi vous donner une illustration de comment ça marche. Si vous reveniez à la prophétie de Jérémie avec moi. Revenons au chapitre 6. Jérémie prophétisait sur le jour de l'Éternel. Jérémie avertissait Judas, le royaume du Sud, de jugement. Et il parlait d'un jour historique du Seigneur, où Dieu viendrait et utiliserait une autre nation pour être son juge et son exécutant. Beaucoup seraient massacrés, et le reste serait déporté à Babylone. Donc Jérémie voyait un jour de l'Éternel historique et proche, comme anticipation à ce dernier jour ultime du Seigneur. Mais vous remarquez ce qu'il devait affronter, n'est-ce pas? Il prédisait que cette armée allait venir et balayer Juda, le déposséder de son pays, et tous les emmener en captivité, et tout le reste. C'était là le message de Jérémie. Mais voulez-vous, s'il vous plaît, remarquer ceci au chapitre 6, verset 1? Il leur dit qu'il y a certains signes actuels pour indiquer que ce qu'il dit est vrai. Soit dit en passant, il pleurait. Il utilise des leçons pratiques. Il était le prophète qui pleure. Il prêche dans les rues. Il avertit encore et encore que le jugement de Dieu arrive. Et ici il dit, « Voilà, fuyez pour votre sécurité. Fuyez du milieu de Jérusalem, descendants de Benjamin. Sonnez de la trompette à Tekoa. Élevez un signal à Beth à Kerem. Pourquoi? Car le malheur vous guette du nord, et ce sera un grand désastre. Regardez, l'armée campe sur la frontière nord. Ne voyez-vous pas le signe? Ne voyez-vous pas le signal? Courez, fuyez, mettez votre vie en ordre. » Mais il devait affronter quelques autres personnes. Au chapitre 6, verset 13, il dit, au milieu du verset, « Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils remédient superficiellement au désastre de mon peuple. Tout va bien, disent-ils. Mais rien ne va. Que disent ces faux prophètes? Oh, pas de souci de cette armée là-bas. Ce n'est rien. Nous avançons tranquillement vers une nouvelle période de paix. C'est l'aube d'une nouvelle paix. Tout sera merveilleux. D'où pensez-vous qu'ils recevaient leur message? De Satan en personne, et de ces démons qui font toujours tout leur possible pour mentir et tromper le peuple de Dieu. Ainsi, ces faux prophètes, diaboliquement inspirés, couraient partout en disant « Paix, paix, nous arrivons à une période de paix, nous entrons dans une période de paix. » Au chapitre 8, verset 11, il est essentiellement dit la même chose. Il remédie superficiellement au désastre de la fille de mon peuple. Ces prophètes ne peuvent guérir personne. Ces prophètes ne peuvent pas guérir spirituellement les gens. C'est un ministère superficiel, qu'ils ont parce qu'il est plein de mensonges. Ils disent paix, paix, mais il n'y a pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Au chapitre 14, deux versets, les versets 13 et 14, j'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, ce sont les prophètes qui leur disent, « Vous ne verrez pas d'épée, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai une paix complète dans cet endroit. » C'est ce qu'ils disent au peuple, une paix durable, pas d'épée, pas de famine. « Ah, Seigneur, dit-il, j'ai tant de concurrence qui informe le peuple faussement. Écoutez, croyez-le, les amis. Dans les derniers temps qui précéderont l'Holocauste final, du jour du Seigneur, le monde va littéralement ramper devant des faux prophètes, diaboliquement inspirés, qui mentiront sur les événements du moment. Et c'est pour cela qu'ils diront paix et sécurité. Paix et sécurité. » Au verset 14, le Seigneur dit que les prophètes annoncent des faussetés, comme si cela venait de moi. Je ne les ai ni envoyés, ni ne leur ai donné d'ordre, ni ne leur ai parlé. Ils vous prophétisent une fausse vision et divination de la futilité et de la tromperie de leur propre chef. Lamentation 2.14, également écrit par Jérémie, dit la même chose. Tes prophètes ont eu pour toi des visions sans valeur ni saveur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute afin de changer ton sort. Ils t'ont communiqué des messages mensongers et trompeurs. Regardez Ézéchiel. Ézéchiel avait le même problème. Ézéchiel, chapitre 13. C'est vraiment fascinant. C'est une illustration très imagée. Au verset 10, le Seigneur dit. C'est Dieu qui parle ici. Il commence à parler au verset 8, mais nous lisons depuis le verset 10. Tout cela arrivera parce qu'ils égarent mon peuple en affirmant que tout va bien, alors que rien ne va. Ézéchiel devait affronter la même sorte de choses pendant le temps de sa prophétie. Alors Dieu a fait une comparaison. Dieu utilise une illustration. Mon peuple construit un muret, et eux, ils le couvrent de plâtre. Et c'est son analogie. Annonce à ceux qui le couvrent de plâtre, c'est-à-dire les faux prophètes, qu'il s'écroulera. Ils établissent leur propre bureau prophétique. Ils se pavanent comme s'ils étaient le mur de protection pour le peuple de Dieu. Ils se couvrent de plâtre pour avoir l'air sain et bon. Annonce-leur de ma part que le mur tombera, cette fausse protection. Une pluie torrentielle surviendra. Vous, grêlons, vous tomberez, et la tempête éclatera. Une fois le mur écroulé, ne vous dira-t-on pas où est le plâtre dont vous l'avez couvert? Autrement dit, attendez une minute. Quelles sont toutes ces paroles que vous nous disiez, qui étaient censées nous protéger? C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Dans ma fureur, je ferai éclater la tempête. Dans ma colère, une pluie torrentielle surviendra. Les grêlons tomberont avec fureur, avec la destruction pour objectif. J'abattrai le mur que vous avez couvert de plâtre. Je le jetterai par terre, et ses fondations seront mises à nu. C'est-à-dire que vous verrez que ces prophètes étaient faux, et quand il tombera, vous disparaîtrez dans ses ruines. Vous serez sans protection et jugés. Vous saurez que je suis l'Éternel. J'irai ainsi jusqu'au bout de ma fureur contre ce mur et contre ceux qui l'ont couvert de plâtre. Alors je vous dirai, plus de mur, plus de prophètes d'Israël qui prophétisaient à l'intention de Jérusalem, qui ont des visions affirmant que tout va bien, alors que rien ne va. Michée disait la même chose. Michée regardait le jour de l'Éternel, chapitre 3, verset 5, et il dit, ils annoncent la paix, mais il n'y aura pas de paix. Regardez de nouveau avec moi dans Matthieu, un très bref instant. Dans Matthieu, chapitre 24, vous avez une description des événements qui précèdent le jour du Seigneur. Et je voudrais que vous remarquiez ceci. Nous en verrons davantage la prochaine fois. Mais dans Matthieu 24, il décrit la tribulation. Il décrit ici l'abominable désolation, au verset 15, où l'Antéchrist profane le temple de Jérusalem. Ensuite, la persécution qui en résulte. Mais remarquez au verset 24, il écrit « De prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper si c'était possible, et ce ne l'est pas, même ceux qui ont été choisis. Qu'est-ce qui rend ces faux prophètes crédibles? Pourquoi le monde qui vient de voir, notez-le, des guerres, des famines, des séismes, des pestes, des massacres, l'abominable désolation, l'arrivée d'un précurseur, une apostasie planétaire, le rassemblement des nations dans la vallée de la décision, les croit-il? Pourquoi? Pensée inimaginable. Le monde croira-t-il de faux prophètes qui disent que ce n'est que l'aube d'une nouvelle période merveilleuse de paix? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ces faux prophètes feront de grands quoi? Des prodiges et des miracles, de grands prodiges et des signes miraculeux. Tout ce que l'enfer est capable de produire en spectacle, il le produira à ce moment-là, et même avec tout ce qui se passe. Le monde subtil gobera les mensonges sataniques et marchera comme un troupeau vers l'abattoir, bien qu'il ait été averti, encore averti et répétitivement averti. Je crois que c'est ma responsabilité, comme serviteur de Dieu, d'avertir cette génération. Alors dimanche prochain, je vais vous emmener dans tous les événements préliminaires du jour du Seigneur, pour que vous sachiez ce qui vient. Vous direz, serons-nous là au jour du Seigneur? Non, nous serons enlevés avant le jour du Seigneur. Or, comme vous le savez depuis des années, j'ai toujours eu la conviction de devoir vous enseigner que nous sommes enlevés avant que cette 70e semaine, cette dernière période de 7 ans, commence. La grande promesse est que nous ne sommes pas destinés à la colère, nous sommes destinés à la gloire. Si vous connaissez et aimez le Seigneur Jésus-Christ, le futur que vous attendez n'est que gloire. Si vous ne le connaissez pas, le futur que vous attendez est en tout point terrifiant. Ce n'est pas quelque chose d'anodin que le monde entier ait les yeux fixés sur le Moyen-Orient. C'est là qu'aura lieu l'accomplissement de l'histoire de Dieu. Il pourrait avoir lieu dans cette génération. Il pourrait arriver bientôt. Nous devons être prêts. Si vous connaissez Christ, vous serez pris avant qu'il frappe. Sinon, vous serez détruits quand il arrivera. Inclinons-nous dans la prière. Père, nous nous souvenons que Paul a raisonné avec Félix et Drusille au sujet du jugement. Il aurait été un prédicateur non fiable, un serviteur infidèle, s'il n'avait pas averti les gens de cette manière. Donc, Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas de bienheureuse espérance, nous prions, ô Dieu, que dans ta grâce puissante, tu veuilles les envelopper de l'œuvre de conviction du Saint-Esprit et de la foi en la vérité pour qu'ils puissent venir au salut et à l'espérance. Pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, bien que nous n'aurons pas à souffrir le jour du Seigneur, nous connaissons des gens qui y passeront. Puissions-nous alors faire tout notre possible pour les persuader d'être réconciliés avec Dieu et avec Christ. De plus, Seigneur, à cause de ce qui caractérise les gens de l'obscurité, puissions-nous ne pas vivre comme eux. Nous ne sommes pas de la nuit, Nous ne sommes pas des ténèbres. Nous ne faisons pas partie du jour du Seigneur. Puissions-nous ne pas vivre comme ces gens. Mais que cet aperçu de ce que Dieu va faire à ceux qui vivent ainsi puisse être un rappel que nous ne devons pas vivre de cette manière. Seigneur, comment pourrions-nous nous conduire d'une manière qui résulterait dans la damnation d'autres personnes? Comment pourrions-nous désirer nous identifier avec leur style de vie et ainsi abuser de ta grâce qui pardonne? Alors, Père, enseigne-nous à appliquer ces choses à notre propre vie pour l'amour de Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.